Vous écoutez bien Radio France Internationale. Il est 11h30 en temps universel, 2h de plus ici à Paris. Dans une demi-heure, on vous retrouvera, Charlotte Hydrac, pour le journal, avec à la une une reconnaissance, vers une reconnaissance en tout cas, d'un État de Palestine par la France.
Oui, démarche annoncée par le président Emmanuel Macron avec une échéance, le mois de juin. La classe politique française, vous l'entendrez, est divisée. À la une aussi, l'euphorie sur les bourses. Ce jeudi, les marchés soulagés après le revirement de Donald Trump sur les droits de douane. Une pause pour tout le monde, sauf pour la Chine. L'Union européenne a suspendu ses mesures. De riposte.
Et on va en parler dans un instant. Et puis, dans votre journal, on parlera aussi du Festival de Cannes. Qui montera les marches?
Alors, quelques noms parmi les réalisateurs en lice. L'Iranien Jafar Pahani, l'Américain Wes Anderson, la Française Julia Ducournau ou encore les Frères Dardenne. La sélection officielle a été dévoilée tout à l'heure.
À tout à l'heure, Charlotte.
RFI, l'Europe à midi.
C'est un premier ouf, mais pas un soulagement total en Europe après la volte-face de Donald Trump. La suspension pour 3 mois des droits de douane imposés au monde entier à des niveaux variables. Aujourd'hui, seule la Chine est encore visée par des taxes considérables. Donc, Charlotte Hydrac nous le disait, pour l'Europe, retour à 10%. Et en échange, Bruxelles suspend elle aussi les premières mesures de rétorsion qu'elle avait prises. Anne Verdaguer, la prudence est quand même de mise hein, et l'Union européenne espère surtout pouvoir négocier maintenant avec l'administration Trump.
Oui, la présidente de la Commission européenne a salué sur ses réseaux sociaux ce revirement du président américain. Ursula von der Leyen se dit partisane depuis toujours d'un accord zéro tarif entre l'Europe et les États-Unis, mais rien n'indique qu'elle parviendra à ses fins. Donald Trump, qui continue, vous l'avez dit, à imposer des taxes de 10% à tous les pays européens. L'Europe, qui tente de diversifier ses partenaires commerciaux. Aujourd'hui, les États-Unis restent la première destination des exportations européennes. D'ailleurs, le Premier ministre espagnol est le premier dirigeant européen à se rendre en Asie du Sud-Est pour des discussions commerciales. Pedro Sanchez est au Vietnam aujourd'hui. Il sera demain à Pékin. On l'écoute.
La semaine dernière, le gouvernement américain a annoncé des taxes douanières sans précédent et irrationnelles sur presque tous les pays. 20% sur l'Union européenne et un montant sidérant de 46% sur le Vietnam. En résumé, nous considérons cette décision comme injustifiée, injuste et dangereuse, car personne ne sort gagnant de cette guerre commerciale. Tout le monde est perdant. C'est pourquoi la décision d'une pause annoncée par l'administration américaine, sans que nous en ayons encore tous les détails, nous semble être une porte ouverte à la négociation et à un accord possible entre les pays.
L'Union européenne qui pourrait finalement tirer son épingle du jeu dans cette guerre commerciale.
Oui, l'Europe a décidé de mettre en pause pour 90 jours les mesures de rétorsion votées hier et qui concernent un éventail de produits américains, l'acier, l'aluminium, mais aussi les amandes, le jus d'orange, l'équivalent de 22 milliards d'euros par an pour les États-Unis. Mais le vieux continent n'a pas dit son dernier mot. La force du bloc européen réside notamment dans sa position d'arbitre qui lui permet de négocier avec les deux parties pour ne pas se faire déborder par l'afflux de biens en provenance de la Chine. Les pays européens n'auront, à vrai dire, pas le choix que de trouver un point d'équilibre avec Pékin et les autres puissances asiatiques pour protéger certains pans de son industrie et notamment la filière automobile qui paraît particulièrement menacée malgré les mesures protectionnistes déjà instaurées vis-à-vis des producteurs chinois. Mais si le bloc européen conserve calme et mesure, comme ce fut le cas depuis le début de cette crise, l'Europe peut sortir la tête haute de cette guerre commerciale si et seulement si elle continue à montrer un front uni.
Anne Verdaguer, cette guerre commerciale a aussi eu des effets ces derniers jours sur le cours du pétrole et cela inquiète la Russie qui était pourtant épargnée par les nouvelles taxes Trump. Pour Moscou, un baril aux alentours de $50, c'est une mauvaise nouvelle pour l'économie de guerre, Jean-Didier Revoin.
Depuis le début du mois d'avril, le prix du baril de brut russe a perdu une quinzaine de pourcents. Or, selon les calculs des autorités, en 2025, les revenus des hydrocarbures doivent financer le tiers du budget de la Fédération de Russie et une grande partie de son effort de guerre. De quoi faire dire aux porte-parole du Kremlin que Moscou suit de très près la situation et Dmitri Peskov de la décrire comme extrêmement agitée, tendue et émotionnellement surchargée. On le comprend, la prévision se base sur un prix moyen annuel du baril russe à $60, soit environ $10 de plus qu'aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. À la surprise générale, l'OPEP a annoncé récemment une hausse de sa production qui fait baisser les cours de l'or noir. Par ailleurs, un ralentissement de l'économie mondiale tel qu'on le prédit si Donald Trump met à exécution sa guerre commerciale avec le reste du monde aurait pour effet de faire baisser le volume des ventes de pétrole russe. Et par conséquent, s'il y a moins d'acheteurs et que les prix du brut baissent, alors Moscou aura plus de difficultés à soutenir son effort de guerre sans faire de concessions à sa population. Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
Dans l'actualité également, un échange de prisonniers entre la Russie et les États-Unis. Moscou a relâché Ksenia Karelina, qui possède la double nationalité russe et américaine. Danseuse de ballet, elle avait été condamnée l'an dernier et était détenue depuis plus d'un an. Elle est en route vers les États-Unis, Julien Chavanne, et c'est un signe de plus de la détente que l'on observe entre Washington et Moscou.
Ksenia Karelina aurait dû passer les 12 prochaines années de sa vie dans une colonie pénitentiaire. Jugée coupable de trahison par la justice russe, son tort, avoir fait un don de 100 dollars pour une association ukrainienne. Il y a quelques heures, à Abu Dhabi, la jeune femme a été relâchée en échange de la libération d'Arthur Petrov. Ce germano-russe a été arrêté par les Américains en 2023, accusé d'avoir exporté illégalement vers la Russie des composants électroniques pour usage militaire. Cet échange intervient alors que de nouveaux pourparlers entre les deux pays débutent aujourd'hui au consulat russe d'Istanbul. Les délégations vont discuter de leur mission diplomatique et de comment les remettre en marche. De nombreux diplomates ont été expulsés des deux côtés ces dernières années. En revanche, le cessez-le-feu en Ukraine n'est pas à l'ordre du jour. Donald Trump commence à comprendre que Vladimir Poutine n'est pas réellement prêt à arrêter les combats. Si les États-Unis et la Russie entament un début de normalisation, Washington laisse pour l'instant de côté les points de blocage, faute de résultats.
Moscou qui poursuit sa guerre en Ukraine. 13 personnes ont encore été blessées la nuit dernière dans la région de Mykolaïv. Et selon Kiev, les forces russes bénéficient sur le terrain de l'appui de mercenaires chinois. On en a parlé sur cette antenne ces derniers jours. Réaction du Kremlin ce matin. Volodymyr Zelensky a tort de dire que la Russie entraîne la Chine dans le conflit. De son côté, Pékin parle de propos irresponsables du président ukrainien.
RFI Midi, Anne Cantner.
Un coup d'œil à la presse européenne. 5 mois et demi après des inondations dramatiques dans la région espagnole de Valence, El País poursuit son enquête sur les défaillances des systèmes d'alerte ce jour-là et le journal est catégorique. Le gouvernement maçonne, le gouvernement régional, a ignoré l'alerte de son commandant en second du service des urgences. Pire, certains hauts fonctionnaires ont fait des blagues dans un groupe de discussion alors que des avertissements sur la montée des eaux avaient été donnés. On a pu lire par exemple ce type de message « J'ai oublié mes rames, mais j'ai des flotteurs pour les bras ». Bien que l'analyse des messages révèle que les hauts responsables du gouvernement de Valence étaient au courant de la gravité de la catastrophe depuis midi, la région n'a envoyé l'alerte sur les téléphones portables que le soir à 20h11. Au Portugal, Diario de Noticias se fait l'écho de l'indignation provoquée par ce qu'elle appelle une censure. Un chapitre consacré à l'extrême droite a disparu du rapport annuel de la sécurité intérieure. Passage qui expliquait en détail l'impact de l'activité de certains groupes extrémistes au Portugal, dont un qui est considéré comme terroriste et qui est mentionné dans les rapports officiels depuis 7 ans. Ce qui amène le journal à se demander qu'a-t-on fait ici au cours des 7 dernières années? Quels risques courons-nous? Et puis The Guardian se penche sur la situation politique en Allemagne. Le pays a enfin un nouveau gouvernement et il sera directement plongé dans une situation de crise, prévient le quotidien britannique. Difficile d'imaginer un moment plus délicat pour prendre le pouvoir entre la morosité du pays et la violence des États-Unis et de la Russie. L'Allemagne et l'Europe ne peuvent pas se permettre une répétition de la dernière coalition, dit The Guardian. Les enjeux étaient élevés à l'époque, ils le sont encore plus aujourd'hui.
RFI à Berlin, 96.7 FM.
Mais pour le futur chancelier, l'Allemagne est de retour sur la bonne voie. C'est ce qu'il a dit hier en présentant sa nouvelle équipe, un mois et demi après sa victoire aux législatives. Friedrich Merz a donc conclu un accord entre les conservateurs de la CDU-CSU et les sociaux-démocrates du SPD. Le SPD, c'est le parti du chancelier sortant, Olaf Scholz. Mais pour beaucoup, le futur dirigeant allemand, Friedrich Merz, est fragilisé, critiqué au sein de son camp, en baisse dans les sondages. En fait, le gagnant, c'est le SPD qui, lui, a obtenu plus de force lors de ces négociations. C'est ce que nous explique Paul Maurice, spécialiste de la politique allemande à l'Institut français des relations internationales.
On voit finalement que les sociaux-démocrates, qui ont très clairement perdu ces élections avec 16%, troisième parti derrière l'extrême droite, ont réussi à sortir des choses qui leur convenaient, notamment sur les questions sociales, sur les questions qui concernent les allocations citoyennes, sur les questions de la retraite des maires notamment. Ce parti social-démocrate hérite d'ailleurs d'un ministère de plus qu'il n'en avait dans la précédente grande coalition de 2018 à 2021. Et on voit que Friedrich Merz, qui avait fait une campagne très conservatrice et libérale, a du mal à pousser ses thèmes au sein de cette coalition. Reste à savoir maintenant si, une fois que le gouvernement sera en place, est-ce qu'il pourra remonter dans les sondages ? Est-ce qu'un nouvel état de grâce, ou en tout cas une nouvelle confiance va arriver ? Ou est-ce que, dès qu'il commencera, l'opinion sera contre lui, ce qui rendra son action très très difficile ?
Paul Maurice, spécialiste de la politique allemande à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. 11h40 en temps universel. On va parler maintenant des arnaques commerciales et financières. Elles sont de plus en plus nombreuses en Bulgarie. Ce que l'on appelle les systèmes pyramidaux ou de Ponzi, les ventes multiniveaux avec parfois des ramifications internationales, comme dans le cas de la fausse monnaie OneCoin. Aujourd'hui, une autre entreprise fait la une dans le pays, une de plus. Damien Vodéricharov, la Bulgarie est gangrénée par une mafia de la fraude qui prend ses racines dans les années troubles ayant suivi la chute du communisme.
Décembre 2024, les participants dans le système Battle ne reçoivent plus leurs paiements quotidiens. Les sites dédiés aux échanges sont hors service. Les responsables ne communiquent plus sur les réseaux sociaux. Le système de Ponzi s'écroule 6 mois à peine après son lancement. Le bilan, 250 millions de dollars sont partis en fumée. 20 000 Bulgares sont victimes de l'arnaque. Tout commence en juillet 2024 lorsque l'entreprise Blue Electric Technology, ou Battle, est créée en Bulgarie. Le plan est simple, le marketing repose sur les publicités bas de gamme tournées sur des téléphones mobiles. Le message n'est pas très subtil.
Bienvenue dans le monde de Blue Electric Technology, leader de l'énergie mobile. Notre compagnie propose des solutions innovantes de location de batteries externes et de stations de chargement à destination des cafés, restaurants et centres commerciaux. Grâce à ses partenariats stratégiques et son modèle de partage des revenus, l'entreprise a bâti un important réseau de collaborateurs.
Le principe est simple, il faut investir une somme d'argent dans une de ces batteries ou stations de rechargement. Ensuite, tout investisseur ou partenaire, comme l'appellent les représentants de l'entreprise, reçoivent un versement quotidien. Au bout d'une vingtaine de jours, cette somme initiale est récupérée, mais les versements continuent. Ce système est réparti en plusieurs offres de valeurs différentes. Par exemple, investir 540 dollars rapporte 20 dollars par jour. Le marketing repose surtout sur le modèle de la vente multiniveau, comme l'explique sur un plateau de télévision Kalina Nikolova, présentée comme la directrice régionale.
D'abord, on en parle à nos familles et à nos amis qui font alors eux aussi partie de Battle. C'est l'aspect le plus sympa, pouvoir travailler avec nos proches. Nos proches attirent ensuite leurs amis, ce qui en fait une très grande communauté. Ce qui plaît avant tout, c'est qu'il s'agit d'une nouvelle filière industrielle intéressante, mais aussi accessible. Tout le monde a un téléphone à recharger. Ça attire, et puis nous sommes bien rémunérés.
Le marketing implique aussi des célébrités bulgares, des artistes, des chanteurs, des sportifs de haut niveau. Carlos Nassar, notamment, champion olympique et mondial en haltérophilie, a déclaré avoir reçu l'aide financière de l'entreprise alors qu'il ne touchait plus son salaire officiel en raison d'un contentieux qu'il oppose à la fédération d'haltérophilie. En échange, Nassar publiait des messages publicitaires sur les réseaux sociaux.
Bonjour aux partenaires et aux amis de Battle. Je suis heureux de participer aux événements de Noël qui célèbrent les progrès de l'entreprise. Et je vous attends le 21 décembre à Sofia.
Tous les paiements vers Battle et vers ses partenaires, entre guillemets, sont effectués au moyen de crypto-monnaies réparties dans différents portefeuilles. Cela brouille les pistes et rend l'enquête très difficile. Une trentaine de plaintes ont été déposées d'après le ministère de l'Intérieur. Les propriétaires réels de l'entreprise restent pourtant dans l'ombre. Même les dirigeants au niveau national, tels que Kalina Nikolova, disent avoir perdu de l'argent.
Quoi que je dise, on ne me croira pas. Mais au bout du compte, je n'ai pas empoché plus de 1500 ou 2000 euros pour moi et mon compagnon. Nous sommes tous les deux au chômage. Mon compagnon a perdu toutes ses économies. La majeure partie de mes revenus, environ 40 000 dollars, ont été réinvestis dans la plateforme.
Les experts de la finance soupçonnent les autorités bulgares d'avoir reçu des pots de vin pour éviter les poursuites judiciaires et les enquêtes de la police dans l'affaire Bethel. Celle-ci rappelle les années 90, lorsque ce genre d'arnaque était chose courante en Bulgarie. C'était l'époque des pyramides et des pharaons, les noms attribués par la presse bulgare au système de Ponzi et à ceux qui les mettaient en place.
What if you're just telling me a story and I don't know, like my head is spinning.
Et en 2016 encore, une autre grande affaire avec une protagoniste bulgare avait fait la une des médias dans le monde entier. Ruja Ignatova, qui avait fondé l'entreprise OneCoin, a mystérieusement disparu en 2017. Elle est encore recherchée par le FBI pour avoir détourné 4 milliards de dollars. Pour le journaliste d'investigation Dimitar Stoyanov, qui a travaillé sur un documentaire de la BBC sur OneCoin, cette tradition de la fraude en Bulgarie a des racines profondes. Organiser un système de Ponzi d'une telle ampleur serait impossible sans la participation de la mafia. Une mafia dont les personnages clés ont des liens avec l'ancien régime communiste.
Ceux qui ont fondé tous les grands groupes criminels sont issus des services secrets et ont fait partie de la police secrète sous le communisme. La transition démocratique a été prévue et conçue par l'appareil du parti. Certains ont été désignés comme les capitalistes de demain, alors que les structures mafieuses constituaient un moyen de contrôle sur l'économie grise.
À l'époque communiste, la contrebande va au-delà de la simple entreprise criminelle. C'est une politique étrangère cultivée par le parti. En 1960, la Bulgarie fait son entrée sur la scène internationale en fournissant des armes au Front de Libération Nationale en Algérie. Un réseau de sociétés de commerce est alors établi afin de servir de façade à l'espionnage, mais aussi, d'après Stoyanov, au trafic en tout genre des armes aux stupéfiants. C'est ce modèle qui façonne encore l'économie bulgare d'aujourd'hui.
Reportage de Damien Vodenitcharov en Bulgarie, à réécouter ce soir dans l'émission Accent d'Europe ou quand vous le voulez sur l'appli RFI Pure Radio. On a beaucoup parlé ces derniers jours de guerre commerciale. On va se pencher avec vous, Dominique Dezonnet, sur une guerre électronique menée celle-ci par la Russie et par la Chine. Selon le groupe de réflexion Secure World Foundation, les deux pays cherchent à perturber le réseau satellitaire Starlink qui appartient au milliardaire états-unien Elon Musk.
Oui, dans un document de 316 pages, le groupe de réflexion Secure World Foundation a évalué les capacités spatiales et de contre-attaque militaire dans l'espace proche de la Terre, c'est-à-dire dans la zone orbitale de 12 pays. Cette guerre électronique des étoiles, en quelque sorte, qui a été mise en place par les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde, l'Australie, ainsi que la Corée du Nord et la Corée du Sud s'intensifient, remarque la Fondation. Ces analyses, qui se basent sur des informations déclassifiées pour les chercheurs, couvrent une période d'un an et un corpus de données qui s'arrête fin février 2025. Selon son rapport, les constellations Starlink de l'entreprise d'Elon Musk sont devenues des cibles stratégiques privilégiées pour Moscou et Pékin, notamment avec une montée en puissance des brouillages satellitaires qui ont sans doute comme origine le déclenchement en 2022 de la guerre que mène la Russie à l'Ukraine.
Les analystes de l'organisation ont mis en avant deux systèmes russes réservés à cet usage qui se nomment respectivement Tobol et Kalinka.
Effectivement, le système Tobol prévu à l'origine pour protéger les satellites russes des agressions électroniques a été adapté à des fins offensives. Il sert désormais à perturber directement des communications satellitaires civiles comme militaires, notamment des dispositifs de navigation GPS. Au moins 7 sites Tobol ont ainsi été répartis sur le territoire russe. Le Kremlin aurait déjà utilisé 3 fois ces installations pour brouiller les signaux Starlink dans l'est de l'Ukraine.
Mais le système qui inquiète le plus les États-Unis, c'est l'autre, le deuxième, Kalinka.
Oui, surnommé Starlink Killer par Moscou, le dispositif serait capable de détecter et de brouiller les signaux émis par les terminaux connectés à Starshield, qui est la version militarisée et donc normalement ultra sécurisée du réseau d'Elon Musk, largement employé par les forces armées ukrainiennes engagées sur le terrain du conflit. La moindre localisation de ces terminaux permet aux forces du Kremlin de bombarder les positions des soldats ukrainiens. Et pendant que la Russie peaufine ses systèmes de guerre électronique, la Chine, qui anticipe aussi Russie, un éventuel affrontement avec les États-Unis, investirait massivement dans des technologies similaires. Cette militarisation de l'espace, qui est de plus en plus assumée par toutes les puissances militaires du monde, inquiète le groupe de réflexion Secure World Foundation. Elle estime qu'un futur conflit dans l'espace pourrait entraîner des répercussions négatives et massives pour tous les habitants de la Terre, qui utilisent souvent et sans le savoir des données issues des innombrables satellites qui rôdent de façon invisible au-dessus de nos têtes.
À demain, Dominique Dezonnet.
RFI, l'Europe à midi.
Direction maintenant Fessenheim, ville française à la frontière avec l'Allemagne. Ce nom, on l'a surtout entendu ces dernières années pour parler du nucléaire, puisque la ville abrite l'une des plus anciennes centrales, arrêtée d'ailleurs en 2020. Reste maintenant à transformer le site, à démanteler la centrale, et cela va prendre des années. Reportage, Pauline Glaise.
Nous allons maintenant dans les vestiaires pour nous changer afin de rentrer dans la partie nucléaire pour aller dans le bâtiment réacteur en tranchée.
Et même si les réacteurs ne fonctionnent plus, l'entrée reste très codifiée. Delphine Rorive, responsable communication du site, nous guide pas à pas.
Là, à l'intérieur, il y a un sas, donc ça se ferme derrière moi. Je pousse pour rentrer.
Revêtu d'une combinaison blanche et de gants blancs, on peut entrer dans le bâtiment réacteur.
Alors, à l'intérieur, donc... Touchez le moins de choses possible. Ne vous frottez pas au mur. Enfin, il faut toucher le moins de choses possible.
C'est la fin de la plateforme ? Et la passerelle d'accès sera où ?
Laurent Jarry, le directeur du site, observe les travaux de pré-démantèlement.
On voit le couvercle. Le couvercle de la cuve. La cuve, effectivement, contenait le combustible dans lequel il y avait la réaction nucléaire. Oui.
Dans ce cylindre de béton et sous son dôme, il faut désormais être bien placé pour l'apercevoir. L'eau qui le recouvrait pour protéger des radiations a été retirée et une plateforme masque la cuve.
On voit le couvercle de la cuve qui est désormais masqué par un plancher qui va nous permettre d'avoir un espace de travail pour démanteler dans un an les générateurs de vapeur en centrale nucléaire. On va commencer par retirer tous les équipements mécaniques. On va retirer, décontaminer, si nécessaire, toutes les parois des bâtiments nucléaires. Une fois qu'on a fini la décontamination, eh bien, on arrive dans un démantèlement beaucoup plus classique où on fera une déconstruction. Et la centrale de Fessenheim, 95% c'est du matériau conventionnel, 5% c'est nucléaire. Et dans les 95% conventionnels, c'est une très très grande majorité du béton. Le béton, on va le conserver, préalablement décontaminé si nécessaire, mais on va le conserver pour le transformer en cailloux, pour combler toutes les galeries qui sont en sous-sol, qui étaient notamment pour acheminer et évacuer l'eau de refroidissement.
Comment est-ce qu'on décontamine de la radioactivité ?
Alors il y a plusieurs procédés, ça peut être un procédé mécanique, où on gratte, on retire ce qui est en surface, ça peut être chimique, il y a plein de procédés qui permettent de décontaminer.
Le matériel démonté sera ensuite conditionné dans des colis bien spécifiques.
Et le colis peut avoir plusieurs rôles. Un rôle de protection mécanique, mais également un rôle de protection radiologique.
Extrait du grand reportage de Pauline Glaise sur le démantèlement de la centrale nucléaire de Fessenheim. À écouter ce soir à 19h40, temps universel. Notre rencontre avec une personnalité du monde de la culture, la compositrice Clara Olivares, qui crée ces jours-ci à Paris un opéra entièrement féminin. Le spectacle s'appelle Les Sentinelles. Il raconte en un huis clos l'histoire de trois comédiennes et d'une chanteuse en quête de sens. Clara Olivares en parle au micro de Carmen Lunzmann.
Clara Olivares, bonjour.
Bonjour.
Vous n'aviez que 23 ans lorsque vous avez composé votre premier opéra Mary pour marionnettes et électronique. Concept plutôt original aussi pour votre deuxième opéra Les Sentinelles, une production 100% féminine et zéro achat. De quoi s'agit-il et quelle est son histoire ?
Alors Les Sentinelles, c'est avant tout un couple de femmes mariées, homosexuelles, qui vont se lier avec une troisième femme, s'aimer, se jalouser, essayer de faire famille, mais aussi d'une adolescente qui va observer, réagir et petit à petit dépérir sous l'œil de ces trois femmes.
Et c'est un enfant HPI ?
On ne l'a pas labellisé comme tel, mais effectivement plutôt surdoué, avec un langage bien particulier.
Qu'est-ce qui vous a incité à choisir un genre comme l'opéra qui remonte à plus de 4 siècles pour explorer des enjeux d'aujourd'hui ?
Alors l'opéra, je l'ai toujours vu comme une sorte d'outil, de miroir de notre société. C'est peut-être une vision un petit peu naïve de ce qu'est l'opéra, mais moi j'aime bien cette idée qu'on peut s'en saisir pour raconter des choses de maintenant et même du futur. Je vois pas ça comme un art ni poussiéreux ni ancien. Et du point de vue de la musique, évidemment, l'opéra, ça veut dire la voix, la fosse, un grand orchestre à disposition. Tout ça qui me fait vibrer à l'opéra.
Alors la musique des Sentinelles, elle ressemble par moments comme sortie d'une bande originale de film, mêlant suspense et mélancolie, d'un coup un cri du cœur. Où puisez-vous l'inspiration pour cette musique, Clara Olivares?
Alors la première inspiration, elle vient directement du texte. Le défi, c'est d'avoir une écriture personnelle, sa poésie par endroits, puis des endroits plus rauques, plus bruts, toujours épouser l'histoire, venir apporter de la tension, de la détente, tirer des fils. C'est ça qui m'influence finalement le plus dans mon écriture.
Comment la musique est-elle entrée dans votre vie, Clara Olivares?
Très tôt, puisque j'ai commencé le piano à 3 ou 4 ans. En fait, je ne l'ai jamais lâché. Puis l'écriture, la composition, tout ça a toujours été l'élément central de ma vie.
Alors dès vos débuts, en fait, des œuvres comme « Le réveil des éléphants pour 10 accordéons » témoignent d'une grande originalité, d'un fort engagement avec des titres poignants aussi, tels que « Exil »,« Douce folie » ou « Cri ». Quel est le rôle de la musique, selon vous, l'une des rares compositrices de ce monde, Clara Olivares?
C'est vrai que ce sont des titres qui sont parfois empruntés de mes propres observations, de mes expériences, tirés aussi de textes, de bouts de poèmes. Douce folie, c'était une pièce pour deux sopranos qui jouaient des cloches à vache autour d'un poème de Victor Hugo. Exil, c'était une pièce que j'avais écrite sur un psaume. Ce sont des témoignages de vie, des témoignages humains. Je pense que la musique, finalement, c'est ça. C'est une sorte d'observation, mais aussi des choses qu'on ne voit pas, tout ce qui est immatériel autour de nous. Et c'est aussi une forme d'engagement vers le vivant, vers l'autre. Toutes ces pièces, pour moi, elles ont une raison d'être qui va au-delà même d'un épanouissement artistique et d'une envie de partager.
Vos compositions ont voyagé d'Espagne aux États-Unis, de Finlande au Brésil, d'Autriche au Venezuela. Avez-vous rencontré des audiences qui vous ont particulièrement inspirée ou surprise, Clara Olivares?
Je pense qu'une des réactions les plus touchantes que j'ai eues, c'était finalement après la première des Sentinelles, l'Opéra de Bordeaux. Plusieurs jeunes, 18-20 ans, étaient venus pour la première fois écouter de l'opéra. Ils s'étaient sentis concernés par cette musique. Pas une musique qui est là pour distraire. Il y a une sensibilité qui se dégage. C'est une musique qui fait réagir aussi. Faire le premier pas, venir écouter, prêter une oreille attentive, garder ce qu'on a aimé, rejeter le reste. C'est finalement la meilleure manière aussi d'entendre ce qui se propose maintenant en musique.
Clara Olivares, qui présente en ce moment son opéra Les Sentinelles à Paris. Elle était au micro de Carmen Lunzmann. La suite sur RFI, c'est un nouveau journal dans 3 minutes et puis à 12h30 temps universel, comme tous les jours, l'actualité africaine. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Kantner.
Vous nous parlerez tout à l'heure
du Sénégal. Il s'était distingué en s'opposant au report de la présidentielle qu'avait proposé Macky Sall. Le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Badiou Camara, est décédé hier à Dakar. Il était à la tête de la plus haute juridiction du pays depuis 2022. Et puis la Cour internationale de justice se penche aujourd'hui sur une requête du Soudan contre les Émirats arabes unis. Khartoum accuse Abu Dhabi de complicité de génocide au Darfour pour ce soutien aux milices des forces de soutien rapide.
À tout à l'heure, Nicolas Sûr. Pour le moment, un peu de musique.
Joute à la tennis, bel soleil, ça qui fait entre nous, c'est magique. Sois sauté qu'à s'immerger au ciel.
Avec la chanteuse française Lauriane Zachary et ce titre Yélélélélaï à écouter en ce moment dans la playlist RFI.
Toto, c'est vous, moi.